Carnet de région.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Le Gard.
Aude.
Lozère.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon proposée par plusieurs radios associatives. Au sommaire cette semaine, dans ce carnet de région, Christian Bourquin réagit à l'annonce de François Hollande sur la réduction du nombre de régions administratives. Pour le président du conseil régional, on ne touche pas au Languedoc-Roussillon. Une assistance technique, juridique ou financière pour l'eau, la voirie ou la surveillance des ouvrages d'art, c'est le but d'une agence technique dans l'Aude qui a été créée cette semaine. La formation professionnelle, une des clés pour décrocher une embauche. Le journal de l'emploi en Languedoc-Roussillon vient de sortir son édition 2014 sur ce sujet. Nous en parlerons avec son rédacteur en chef Denis Bédaride. Dans le Lot-des-Voies, après des années d'attente, nous nous intéresserons au parc régional d'activité économique Michel Chevalier. Les travaux d'aménagement ont débuté. Avis aux amateurs de perles, de fleurs ou encore de bricolage, nous évoquerons le salon Creativa. Il a ouvert ses portes jeudi à Montpellier. Et puis, place à la musique à la fin de ce carnet de région avec le 4e festival Chant d'hiver à vivre jusqu'à dimanche soir à Sérignan dans l'Hérault. Quel avenir pour le Languedoc-Roussillon et ses 5 départements après l'annonce de François Hollande de vouloir réduire le nombre de régions métropolitaines passant de 15 à 22 ? Peu de réponses précises, si ce n'est un ballon d'essai lancé par le chef de l'État. Le président de la République espère ainsi simplifier le millefeuille administratif et faire de la région le chef de file du développement économique. Le projet s'annonce toutefois compliqué au vu du nombre de voix qui s'élèvent chaque jour pour le contester. Des voix auxquelles s'ajoutent désormais celles de Christian Bourquin, qui refuse d'emblée tout mouvement de frontières en Languedoc-Roussillon.
Le président de la République a dit éventuellement, on ira vers ça. Il y a des régions qui l'ont demandé. Eh bien, il faut leur donner l'occasion de le faire. Nous, ici, on n'est pas preneurs. Je le dis très clairement. On est la 8e région de France. On correspond au 22e État des États-Unis. Vous voyez, Obama a annoncé qu'à partir du 22e État, il liquide tout. Nous avons nos propres forces, notre capacité de développement. Le redéploiement industriel que connaissent actuellement des régions comme la Bretagne, nous l'avons fait avec la mono-industrie de la vigne que nous avons, et nous l'avons fait il y a 20 ans. Et donc, aujourd'hui, avec tout ce secteur, la recherche qui nous permet la création de toutes ces entreprises, avec cette dynamique économique que nous avons, certes avec un chômage structurel qui nous suit, je le sais très bien, mais avec tout ce développement aujourd'hui et ces capacités d'innovation, nous sommes la 8e région de France, bien portante, et justement cet équilibre qu'on a trouvé, cette identité que nous avons, eh bien, je souhaite la garder, c'est une évidence, je ne me sens pas menacé de ce côté-là.
Christian Bourquin, le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, au micro de Gilles Geoffrey de Radio Aviva, a noté qu'un projet de fusion des régions avait déjà été envisagé par Nicolas Sarkozy en 2008, avant que celui-ci ne recule devant le manque d'enthousiasme des collectivités locales.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est une aide précieuse attendue par de nombreux élus audois. La nouvelle agence technique départementale a été créée cette semaine dans l'Aude par le Conseil Général. Un sujet d'Éric Boyer, d'RCF Pays d'Aude.
Beaucoup de maires se pressaient mardi soir au Conseil Général de l'Aude à l'occasion de la création de la nouvelle agence technique départementale qui devrait apporter une aide technique, juridique et financière aux communes qui le demandent. Cette aide était, mais n'est plus, apportée par l'État depuis le 1er janvier. La création de cette agence dans l'Aude s'imposait donc. André Viola, président du Conseil Général.
C'est très important pour les communes rurales, les petites communes de notre département, tout simplement pour leur adresser un service, un accompagnement en ingénierie sur des questions très techniques concernant les routes, l'eau et l'assainissement qu'elles avaient il y a des années de par l'État, qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Et donc on a besoin de cette structure qui prenne le relais pour faire une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire des pré-études et un accompagnement sur les dossiers, un suivi des chantiers dans ces domaines-là.
Donc elle est créée aujourd'hui, elle va être effective à partir de quand ?
Elle est effective à partir d'aujourd'hui. Alors bien sûr, là on la met en place pour qu'elle existe administrativement et juridiquement, mais bon, elle ne va pas fonctionner avant le renouvellement des élections municipales. Je ne pense pas qu'il y ait des municipalités qui saisissent cette structure immédiatement. On va attendre les nouvelles équipes.
Ça implique des gens salariés dans cette agence ? Ça implique du personnel ?
Alors, il y a beaucoup de mutualisation qui se fait, notamment avec le département, puisqu'on a les compétences qu'il faut sur les routes pour assurer ce conseil auprès des communes. Vos auditeurs ne le voient pas, mais on a une file immense là parce qu'on a une seule secrétaire. On a voulu une structure administrative très légère, puisque le but c'était vraiment de mutualiser, surtout sur des compétences techniques, et de ne pas créer monstre administratif. C'est pas du tout le cas. On veut une structure très légère et réactive.
Le besoin était là, on sent qu'il y a un besoin de la part de tous les gens qui sont là.
Il y a près de 300 communes qui ont adhéré, et je vois effectivement que ce soir les personnes, les maires sont présents.
Et sur les 438 communes que compte le département, 271 précisément d'entre elles ont pour l'instant déjà adhéré à cette nouvelle agence technique départementale créée officiellement mardi soir.
La formation au cœur de l'emploi. En ce début d'année, le Journal de l'Emploi a publié son édition 2014 du Guide de l'Emploi et de la Formation. Selon le magazine Languedocien, la formation est l'une des clés pour réussir professionnellement dans notre région. Au micro de Maxine Triano de Radio FM+, Denis Bédaride, le directeur du Journal de l'Emploi, détaille les différents processus de formation.
La formation, il y a deux manières aussi de la voir, voire deux, trois manières. C'est de se dire, je fais mes études, donc je me forme. C'est bien et c'est normal. Et plus vous en ferez des études, et plus elles seront précises par rapport aux besoins des entreprises, et moins vous galérerez pour trouver un emploi. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études. Aujourd'hui, quelqu'un qui est diplômant, on va dire, eh bien, il a une chance plus importante que les autres de trouver rapidement un emploi. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appellera la formation continue. C'est-à-dire qu'on va permettre à la personne de travailler au cours de sa vie, mais de se former au cours de sa vie en se disant deux cas. Soit je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans le cadre de mes études et donc je peux les compléter à 30 ans ou à 35 ans ou à 40, ou alors parce que l'entreprise, dans le cadre de son évolution, a besoin que tel ou tel salarié se forme à telle compétence, mais le salarié ne l'a pas. Deux cas possibles, il le vire, soyons clairs, et il va recruter quelqu'un qui a la compétence. Soit il se dit, mince, ce salarié, ça fait quand même 7 ans qu'il est avec moi, il a toujours été fidèle, il travaille très bien, et si je lui payais une formation pour qu'il puisse accéder à ce niveau de qualification qui me permettra à la fois de répondre à mon besoin et en même temps de le garder. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Et enfin, il peut y avoir une troisième phase qui rejoint un petit peu quand même les autres, mais qui est un peu différente, c'est que c'est l'entreprise qui décide de mettre un plan de formation, ce qu'on appelle un plan programme régional d'emploi formation sur une durée, c'est-à-dire ça peut être sur une durée de 3 ans, 5 ans, et en fait c'est l'entreprise tout entière, avec ses salariés, qui va essayer d'évoluer pour acquérir telle ou telle chose. Je prends un exemple, c'est souvent dans le cadre des marchés publics. L'entreprise, on lui dit, oui monsieur, attention, si vous voulez accéder à ce marché public-là, il vous faut tel niveau de qualification, il vous faut telle certification. Et souvent, on ne l'a pas. Donc, ça va nécessiter une évolution de l'ensemble de l'entreprise pour y accéder. C'est comme si quelqu'un était en Ligue 2 de football, soyons clairs, et qu'il veut passer en Ligue 1. Il ne s'agit pas uniquement d'arriver premier ou deuxième du championnat de Ligue 2. Ça ne suffira pas pour pouvoir travailler en Ligue 1. Il va falloir apporter d'autres compétences pour pouvoir à la fois y accéder, mais surtout y rester en Ligue 1.
Alors, tant qu'on est dans ce secteur de la formation, je voudrais qu'on dise un mot sur ce guide de l'emploi et de la formation en Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qui peut aider les demandeurs d'emploi ?
Vraiment, je le dis, c'est vraiment un super, super outil. C'est beaucoup de mois de travail. C'est plus de 100 pages qui sont entièrement consacrées à l'emploi dans la région. Cela concerne toutes les entreprises qui recrutent. Il y en a à peu près 750 entreprises qui sont référencées avec leurs coordonnées complètes, les effectifs, le secteur d'activité, le département. Il y a à peu près 180 organismes de formation qui sont sélectionnés et qui apportent vraiment des solutions à l'emploi par la formation. Il y a toutes les adresses de la création d'entreprise. Il y a des conseils pratiques. Il y a un nombre important d'acteurs de l'emploi important, on va dire, qui expliquent ce qu'ils font. Alors ça va dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la banque, dans le domaine donc vraiment de toutes sortes d'entreprises et d'organismes qui expliquent ce qu'ils font, comment ils recrutent, pourquoi ils recrutent. Vraiment, je vous dis, c'est 100 pages entièrement consacrées à l'emploi.
Denis Bédaride, le directeur du Journal de l'Emploi.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Direction la commune du Bosc, près de l'Audève, tout proche de l'autoroute A75, où la région a décidé de construire un de ses parcs régionaux d'activité, le PRAE Michel Chevalier, c'est son nom. Une première tranche de près de 9 hectares est en cours de viabilisation, réalisée pour le compte du conseil régional par le concessionnaire Languedoc-Roussillon Aménagement, connu sous le nom de LRA. Marc d'Artigalong a en charge le suivi de ces travaux qui ont débuté en octobre dernier.
Et le chantier se passe plutôt bien, en bon partenariat avec l'entreprise, mais aussi les bureaux d'études techniques qu'on a mandatés pour cette opération, notamment des experts en radiologie liés à l'historique du site pour garantir qu'à la fin, on ait un niveau radiologique qui soit tout à fait compatible avec les activités qui seront réalisées sur le site. Et également aussi des SPS, des maîtrises d'œuvre qui vont nous permettre d'avoir des travaux qui se passent dans les meilleures conditions, et c'est le cas avec tous ces partenaires. Oui, alors là, c'est vrai que la spécificité aussi du site de l'ODEV, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà présentes, donc il y a actuellement 4 entreprises. Donc l'idée, c'est de continuer de permettre, bien sûr, qu'on ne perturbe pas leur activité, et en même temps qu'on crée donc justement ces nouvelles parcelles. Donc on 9 hectares commercialisés, avec des parcelles qui oscillent sur cette phase entre 3000 m² et 15 000. Certaines peuvent même être regroupées, donc on peut même monter jusqu'à 23 000 m² pour les plus grosses parcelles. Et dans une deuxième phase, on va commercialiser d'autres parcelles qui commenceront dès 1000 m², donc on peut répondre à un nombre de prospects assez large avec des typologies très différentes en fonction des parcelles.
La commercialisation des premiers lots a débuté alors que sur le terrain un impressionnant balai d'engins et de camions s'affaire. C'est un groupement d'entreprises qui a décroché ce très gros marché de 10 millions d'euros hors taxes, la société Guintoli.
Charles Bedost, je suis le directeur de travaux et je fais partie de l'entreprise Guintoli. Pour nous, c'est un an de travaux. On va avoir en moyenne entre 20 et 40 personnes sur le site pendant un an. Donc il y a des travaux de terrassement qui vont durer pendant 3-4 mois. Après, on va basculer sur les travaux de réseau pendant pareil 4-5 mois. Et finir après sur la voirie, sur toutes les voiries qu'il y aura à faire sur le site pendant 3 mois pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est Guintoli, l'entreprise Guintoli, qui est mandataire donc, du chantier, qui est le chantier en groupement. Donc on est avec l'entreprise EHTP qui fait partie du groupe NGE de Guintoli aussi. Après, il y a l'entreprise Nocotraitant, donc il y a Razelbeck et Fage. Voilà, on est 4 à avoir eu le chantier.
Dominique Poncet, je suis directeur de l'agence Languedoc pour Razelbeck sur Montpellier. Voilà, donc nous on est en groupement d'entreprises avec l'entreprise NGE et des entreprises locales, l'entreprise Rouvier et Baldard pour ne pas les citer. Alors, nous avions un grand intérêt pour ce chantier parce que sur le dev, moi personnellement je travaille depuis plus de 20 ans puisque j'ai démarré par le tunnel de l'Escalette. J'ai fait la 75 sur toute sa longueur et j'ai fini dernièrement, il y a 10 ans, la déviation de l'ODEV où on est resté pratiquement 2 ans sur cette déviation. Donc on a embauché beaucoup de gens sur l'ODEV. D'ailleurs, notre chef de chantier habite ici. Donc on était très 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 à cœur de faire cette grosse opération qui est très importante puisque elle représente pratiquement 10 millions d'euros. Puisqu'on fait tous les corps de métier, on va faire le terrassement. Je rappelle qu'il y a 200 mm3 de matériaux à bouger, surtout à analyser, puisqu'il faut mesurer la radioactivité avant de les remettre en place. Et ensuite, on va faire tout ce qui est réseau d'eau potable, eau usée, assainissement et la voirie avec la partie chaussée.
À terme, ce sont 22 hectares qui vont être aménagés pour accueillir des entreprises sur ce parc régional d'activité Michel Chevalier sur la commune du Bosc. C'était un sujet d'Alain Mendes de Radio Lodev. Avis aux amateurs de perles, de fleurs ou de bricolage, le salon Creativa a ouvert ses portes jeudi au Parc des Expos de Montpellier. Un salon consacré aux loisirs créatifs. Mais alors, quelle est cette idée ? Réponse de la directrice du salon Creativa, Marianne Jahan.
Les loisirs créatifs sont en fait autrefois c'était ce qu'on appelait les travaux manuels, mais c'est tout ce qu'on peut faire soi-même. Donc ça recouvre maintenant une thématique très très large. Ça va donc effectivement du loisir traditionnel, des travaux manuels traditionnels, jusqu'à la cuisine créative, au home déco, le fait de bricoler soi-même, de retaper une vieille commode. La nouveauté aussi présente sur le salon cette année, ce sont de nombreux ateliers consacrés au recyclage. Comment redonner vie à un vieux vêtement, un meuble un peu usé, un peu passé de mode. Tout ça, c'est dans l'air du temps, c'est économique, c'est écologique. Voilà, donc tout cet aspect-là est également englobé dans le loisir créatif. En deux mots, on dirait que le loisir créatif, c'est tout ce qu'on peut faire soi-même.
Vous avez parlé de l'art de fil. C'est vrai que le domaine de la laine, des pelotes de laine de nos grands-mères reviennent aussi à la mode, ça, le tricot?
Oui, le tricot, tous ces savoir-faire un peu anciens, hein, qui étaient totalement désuets, passés de mode, il y a un réel engouement. On a l'impression que les jeunes générations ne veulent plus laisser s'envoler ce savoir-faire et donc demandent aux aînés de leur inculquer ces travaux d'aiguille qui sont en fait très utiles et puis qui sont précieux maintenant parce que ça permet de faire des choses soi-même personnalisées à son goût. Donc, on en a peut-être un peu assez de l'uniformité. On a envie de revenir à des choses plus traditionnelles et plus personnalisées.
Marianne Jahan, la responsable du salon Creativa, au micro de Cédric Combé d'RCF Maguelone Hérault. Le salon Creativa est ouvert jusqu'à dimanche au Parc des Expos de Montpellier. Musique dans ce carnet de région avec le 4e festival Chants d'hiver qui se déroule jusqu'à dimanche soir à la Cigalière de Sérignan. Au cœur de l'hiver, dans une salle de spectacle magnifique, un festival, 4 soirées, autant d'hommes que de femmes. Jean-Pierre Decaudin, le directeur de la Cigalière, au micro d'Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault.
Oui, alors d'abord une envie de parité, effectivement, une envie de faire découvrir, ça c'est extrêmement important, parce que les femmes que vous allez voir dans le spectacle Les Ensorceleuses, donc le quartet buccal, sont des femmes que moi j'ai rencontrées il y a quelques années maintenant à Épinay-sur-Seine, alors que j'y travaillais, et qui font un travail a cappella qui est extrêmement intéressant parce qu'il est remarquablement juste, carré, en place. Bon, ça c'est la moindre des choses pour des musiciennes, mais surtout parce qu'ils travaillent sur l'intimité, sur le rapport à la femme, sur cette sensibilité, et toutes ces choses-là sont vécues sur scène. Il n'y a pas besoin de disserter très longtemps pour se rendre compte de ça, pour s'imprégner de ça, et on ressort du spectacle avec une humanité renforcée. Donc ça c'est vraiment important de faire découvrir ça, parce qu'il y a peu d'exemples de ce type, en tout cas au sud de la Loire. Ces quatre femmes-là méritent vraiment le détour.
À Bahia, Maria Paria est là. À Bogota, Maria Paria est là. Aussi dans la rue Quincampoix, Maria Paria, où que tu sois, Maria est là. À Calcutta, Maria Paria est là. Fortaleza, Maria Paria est là. Dans le monde de Montreuil-sous-Bois, Maria Paria, où que tu sois, Maria est là.
Lise Chéral également, c'est une très belle écriture. C'est quelqu'un qui espiègle, certes, mais qui a un travail profond, qui se différencie bien de sa sœur. Elles sont vraiment complémentaires aussi sur l'écriture. Et là aussi,
Jeanne Chéral, pour la nommer.
Et là aussi, je trouve qu'on ressort avec un léger renfort d'humanité qui peut pas faire de mal. Donc c'est vraiment, l'esprit est là. C'est sur le renfort d'humanité que peut apporter la chanson et le fait de passer une soirée avec des gens qui sont des humanistes au fond. Et la recherche, elle se fait sur ça essentiellement.
Tu veux qu'on parle, tu veux qu'on sorte, t'as pas frappé à la bonne porte ici, y a pas d'intellectuel, moi je ne suis que l'amour charnel. Alors pour trouver mon bonheur, j'ai pris tous mes petits compagnons, je les ai mis dans un mixeur, j'ai appuyé sur le bouton.
Après, avec Dubartas, on a le caractère festif, on a le...
Festif et engagé aussi.
Absolument, oui, tout à fait, c'est pas du festif simple. C'est bien d'avoir les deux aspects pour que de manière sympathique on puisse finalement réfléchir et là aussi sortir un peu renforcé. On a besoin de renfort en fait en début d'année.
Dubartas qui enflammera la salle sérignanaise avec ses chants languedociens samedi soir et puis Lise Chéral en concert de chansons françaises dimanche soir à la Cigalière de Sérignan dans l'Hérault.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin de ce carnet de région. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.